journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. À suivre dans quelques secondes sur la radio mondiale, Radio Foot International.
Radio G 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette, la quotidienne de Radio G. Heureusement que la fin de semaine arrive car il fait de plus en plus chaud dans le studio, mais on s'adapte, le ventilateur tourne à plein régime ce soir. Après Simon et Marie en début de semaine, c'est encore une voix différente qui va animer l'émission, et ce soir c'est moi, Colin, qui m'en charge. Justement, on est bien sûr avec Simon comme d'habitude, bonsoir Simon.
Bonsoir Colin, bonsoir tout le monde.
Est-ce que ça ne serait pas ton dernier jour avec nous ?
Bientôt, je serai là également mercredi, mais dernier jour de la semaine là, oui.
Et on parle de quoi avec toi ce soir ?
Ce soir, on va accueillir Charlotte Gruet, chef de projet événementiel à Loire-Oution. Et on aura également deux membres de l'association Zenga Zenga avec Jules Marionneau et Younal Le Billon.
On sera également avec Anaïs qui est dans le fond du studio pour une deuxième interview. On est jeudi, donc Mathéo sera aussi avec nous pour sa chronique d'actu. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir. Non, il arrive.
Bonsoir.
C'est quoi l'actu de cette semaine ? Tu nous teases un petit peu ou quoi ?
Ouais, alors je vais parler du Bon Pasteur, parce que c'est le festival d'Anjou en ce moment. On a une pièce qui s'appelle Bon Pasteur, peine mineure, qui a été... peine mineure 2, c'est vrai. On sent que t'as reçu le cas il y a pas longtemps. Non mais voilà, donc je vais revenir un peu sur l'histoire du Bon Pasteur, parce que c'est un pan quand même assez important de l'histoire d'Anjou.
Et pour veiller sur tout ce beau monde, le chef est évidemment avec nous ce soir aussi. Il nous supervise derrière son bureau. Je parle bien sûr de Pierre Benoît. Bonsoir Pierre Benoît.
Je suis l'inspecteur académique là. C'est toi le chef, le maestro de l'émission ce soir. Bonsoir du coup, bonsoir.
Voilà pour le sommaire de cette émission. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Mais avant tout, un tour des actualités du département avec le Flash Info, et c'est avec toi Marie.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
Nous allons ce soir commencer par une collision entre deux véhicules. L'hélicoptère du SAMU de Beaupré a été mobilisé. Ça s'est passé ce mercredi 17 juin sur la départementale 756 à la sortie de Jalet, où un choc frontal entre deux véhicules a eu lieu. Les deux conductrices blessées ont été évacuées, dont l'une de 70 ans via la voie des airs avec l'hélicoptère du SAMU de Beaupré. Elle a été amenée au CHU d'Angers, tandis que la deuxième, celle de 20 ans, a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital de Cholet. La départementale 756, plus communément dite la route Beaupré, a été coupée le temps de l'intervention. Les gendarmes mènent l'enquête pour savoir qui est responsable de cette collision entre les deux automobilistes. On a également la préparation de la 23e édition des Rencontres Végétales d'Angers. Pour leur 23e édition, l'association Rencontres Végétales dévoile déjà son thème « Bambou et graminées ». 59 exposants ont déjà confirmé pour ce rendez-vous avec la nature, comparé à 65 l'année dernière. Mais ce n'est pas une exposition botanique, mais un véritable événement rassemblant des exposants, mais aussi un espace restauration et bar avec des activités comme la distillation florale, de la grimpe. Il y aura également une tombola avec des tirages réguliers qui animera la journée. Alors rendez-vous le 30 août à Plessis-Grammoire pour une rencontre avec des exposants et l'association Rencontres Végétales. Et enfin, après le départ des défenseurs Gér Rouyaen, je vais y arriver, et Ethan Cap, les Ducs d'Angers doivent trouver de nouveaux défenseurs. Gér Rouyaen, défenseur finlandais, ne poursuivra pas l'aventure avec les Ducs d'Angers pour la saison prochaine, ainsi qu'Ethan Cap, qui pendant 2 ans a joué avec le maillot en juin. Le Canadien avait déjà un remplaçant, Vincent Melin qui pourra enfin montrer de quoi il est capable pour la saison prochaine. Mais il reste toujours une place à combler après le départ du Finlandais. Les dirigeants cherchent donc un défenseur arrière gaucher afin de compléter l'équipe, notamment la défense.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Marie pour ce panorama des actualités locales. Et on retrouve sans plus tarder Simon du côté de Loire-Authion avec notre premier invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes avec Charlotte Gruet, donc chef de projet événementiel à Loire-Authion. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Et donc avec toi, on va évoquer un petit peu la nouvelle saison estivale. On a d'ailleurs pu voir que cette dernière, elle a un petit peu commencé avec la journée Rive d'été qui s'est tenue le 6 juin dernier. Est-ce que tu peux rapidement revenir dessus et nous dire un petit peu en quelque sorte comment cette journée, elle a introduit la saison?
Oui, Rive d'été, effectivement, le 6 juin, on était sur les bords de l'Authion à Andard, ce qui permettait d'avoir des animations autour de la nature et de l'espace naturel sensible qui se trouve justement à Andard. Et on avait également la clôture de saison culturelle, donc avec des spectacles, à la fois une fanfare, donc des spectacles musicaux, mais aussi des spectacles plus circassiens, acrobatiques, puisqu'il y avait également le spectacle Deux dans l'arbre, qui était des danseurs accrochés en équilibre sur le tronc d'un arbre. Et puis il y avait des ateliers après pour les enfants, différents ateliers, stop motion, également découverte des petites bêtes, donc beaucoup d'ateliers familiales tout au long de la journée.
Au niveau de la programmation, on va pouvoir retrouver des apéro-concerts. En quoi ça va consister? Est-ce que tu peux nous dire aussi les artistes qu'on va pouvoir retrouver lors de ces apéro-concerts?
Oui, il y a 4 apéro-concerts qui sont proposés tout au long de l'été, 2 qui sont en juillet et 2 en août. Le 3 juillet à Brin-sur-l'Authion, on va retrouver Afrobeat Commanders, qui est également porté par l'école de musique Vallée-Loire-Authion. En seconde partie, il y aura une présentation des élèves. Ensuite, toujours en juillet, le samedi 18 juillet, on va retrouver Kafi, la fanfare locale au niveau de La Boale. Puis le 1er août à Cornet, on va retrouver Cocodri, qui est une formation cajun folk. Et enfin le 21 août à Andard, ce sera le groupe féminin Marilus, où c'est des chansons à texte plus engagées.
Et par rapport aux éditions précédentes, est-ce qu'il y a eu des nouveautés?
Alors oui, chaque année, ce sont des buvettes associatives qui tiennent la buvette et les petites assiettes apéro pour que tout le monde puisse profiter de la soirée. Et donc, chaque année, ça change non seulement la programmation, mais aussi les associations qui bénéficient de cette soirée. Donc, on retrouve la chorale Voici Voilà, on retrouve l'association Soleil d'Automne, le comité de jumelage et l'association Rock & Co pour les 4 buvettes partenaires cette année.
Il y aura également un dernier week-end d'août assez chargé avec la foire Saint-Gilles le 29 et le 30. Qu'est-ce qui est programmé pour ce week-end?
Alors effectivement, la foire Saint-Gilles à Bonnet, là on n'est pas dans de la nouveauté, c'est une foire qui est très ancestrale, c'est une des plus vieilles foires du Maine-et-Loire, donc on reprend des choses qui sont intemporelles, il y a toujours un vide-grenier, il y a toujours un bal le samedi soir, il y a également une fête foraine, il y a également beaucoup de métiers de bouche et d'exposants, de petits commerçants en fait, type foire. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des concerts qui sont proposés avec des fanfares tout au long de la journée. Et ce qui change un petit peu, c'est la course de caisse à savon aussi le dimanche.
Oui, j'ai vu que tu parlais de concerts. Quels artistes on pourra retrouver lors de ces deux jours?
Alors il y a Anatoly qui jouera le samedi. Il y a le groupe Croque-Note également, qui est de la musique traditionnelle à danser. L'orchestre Cristal, ce sera donc le bal du samedi soir. Et puis le dimanche, il y aura le groupe Notting Hill et la fanfare à la gueule de loup qui jouera tout au long de la journée.
Et pour les caisses à savon, on peut encore s'inscrire ou c'est quoi les conditions? Parce qu'avec Simon, on est chaud. Hein.
Eh bien tout à fait, vous pouvez vous inscrire pour la course de caisses à savon. Il ne faut pas hésiter à contacter l'association Bonnet en Fête. Donc Bonnet en Fête, fête au pluriel, @gmail.com. Et puis vous vous inscrivez avec plaisir.
C'est dans la brochure sinon.
Très bien, on s'inscrira avec Pierre Benoît. Au mois de septembre, du 3 au 13, si je me trompe pas, on va pouvoir retrouver la fête des abeilles. Moi, j'avais une question par rapport à ça. C'est, on sait que les abeilles, c'est, j'allais dire, un insecte assez médiatisé, mais qui est pas mal mis sur le devant de la scène. Comment, justement, avec ces 10 jours, on va pouvoir en apprendre davantage sur ces abeilles?
La fête des abeilles, oui, c'est pareil, c'est une fête qui est pas nouvelle hein, sur Loire-Authion. C'est porté par un collectif assez dynamique sur le territoire et qui est plutôt reconnu sur l'échelle départementale par rapport à son réseau de professionnels et d'intervenants, justement. Il y a des conférences spécifiques sur les abeilles, les pollinisateurs, sur le nourrissement des abeilles par des professionnels qui ont vraiment pignon sur rue sur ce domaine. Il y a également un concours de miel d'Anjou où on retrouve des miels qui sont récompensés à l'échelle nationale pour le coup. Et il y a également une projection de film qui se fait à l'espace du Sequoia le 3 septembre.
Qu'est-ce que ce sera comme film qu'on pourra retrouver là-bas ?
Le Chant des forêts de Vincent Munier.
Et non pas B-Movie, ça aurait pu. Hein.
Ça aurait pu, mais non. J'ai également pu voir aussi que cette saison elle sera remplie d'activités culturelles et patrimoniales. Là, je voulais avoir un petit peu ton point de vue. Pour toi, quelle va être l'activité inratable parmi celles proposées ?
Bah, y a plein de rendez-vous vraiment à ne pas manquer. Mais ce qui est aussi sympa à Loire-Authion, c'est qu'on peut en profiter de manière libre. Y a beaucoup de sentiers de randonnée. Il y a des petits spots un petit peu partout où on peut être au frais, sur les bords de Loire, sur les bords de l'Authion, autour de la Guinguette. Donc ce qui est sympa, c'est de pouvoir aussi flâner et marcher sur les sentiers de randonnée à l'abri des arbres et s'arrêter autour d'une guinguette, boire un coup, entre deux rendez-vous justement, entre deux apéros-concerts ou aussi autour de tous les événements associatifs qu'il peut y avoir, puisqu'il y a près de 200 assos sur la commune qui, elles aussi, participent à la vie et au dynamisme de la commune.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait des traditionnelles balades à pied et à vélo. Comment ça se passe autour de ces balades ? Est-ce qu'il faut réserver quelque chose ou non ? On peut venir librement ?
Est-ce qu'il faut avoir un vélo pour la balade à vélo, oui, par exemple ?
Bah, vous êtes libre effectivement de circuler sur les sentiers à pied, en vélo. Il y a aussi, je crois, un nouveau prestataire qui fait de la location de mobylettes d'ailleurs. Donc vous pouvez faire. Donc là, il faut s'adresser aux loueurs de mobylettes, mais vous pouvez avec des locations vintage circuler sur le territoire.
Ah oui, pas électriques les mobylettes, à l'ancienne.
Je crois qu'elles sont vintage, oui, plutôt à l'ancienne.
Très intéressant.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Simon et Charlotte. Je vais faire un duo aussi de caisse à savon avec Mathéo pour concurrencer Simon et Pierre-Benoît. Tu restes avec nous Charlotte, on rappellera les informations importantes à propos de cette belle saison estivale qui se prépare à Loire-Authion en fin d'émission. On va d'ailleurs rester à Loire-Authion pour parler de la fête africaine, mais avant une petite pause musicale.
Ah, c'est bon.
Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHC invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHC invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. 10 sur 10 c'est la notation. Allez, pina cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention. Chérie, en vrai, j'ai reçu les contrats. Donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. J'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
non, j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais.
Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Bina Cotazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez Bina Cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention.
Justice de Dieu, y'en a un, tu peux laisser tomber Boumara. J'ai dit justice de Dieu, y'en a un, repos bien mérité pour moi.
J'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
non, j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais.
J'ai moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5.
On y va, c'est.
C'était minimum ça de Docteur Yarrow. Petit clin d'œil Anaïs, de la part de Pierre Benoît. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM et on retourne maintenant avec Simon et ses invités.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Et pour notre deuxième interview du soir, nous accueillons Jules Marionneau et Yuna Lebihan, qui sont respectivement trésorier et secrétaire de l'association Zenga Zenga. Bonsoir Jules.
Bonsoir.
Et bonsoir Yuna.
Bonsoir.
Avec vous, donc, on va évoquer la 11e édition de la Fête africaine. Donc, c'est un festival gratuit organisé les 4 et 5 juillet prochains au Port Maillard à la Daguenière. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup rapidement ce festival? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur place?
Donc, la fête africaine, effectivement, c'est déjà sa 11e édition. Et donc, c'est un festival, en fait, qui cherche à promouvoir les cultures africaines, ainsi que le lien social, en fait, au sein de Loire-Ossion. Et donc, on va pouvoir retrouver au sein de ce petit festival, en fait, plein de choses. Parce qu'au final, donc, le samedi, ça va être plutôt du spectacle vivant. Donc, avec de la musique, de la danse, des contes aussi et des percussions, et le dimanche ça va être plutôt du coup des auteurs littéraires en fait qui vont venir raconter des histoires leurs histoires.
On a dit c'est un festival gratuit. Là je me tourne un peu plus vers toi Jules qui est trésorier. Comment est-ce que tu t'organises pour que ce festival il reste gratuit? On sait que forcément avec tout ce qui est sécurité, l'avenue des artistes et tout, ça peut coûter un peu d'argent. Comment toi du coup tu t'organises?
Oui, alors du coup l'association elle a la chance d'avoir comme partenaire la commune de Loire-Ossion, Sonatec ainsi que le département du Maine-et-Loire qui en fait permettent au festival de vivre. Et à côté de ça, en fait, l'année dernière, on a fait du coup des campagnes d'autofinancement pour simplement rapporter de l'argent pour la fête, parce que comme tu dis, en fait, la fête elle est gratuite. Donc, en fait, on a les recettes qu'on a, c'est soit du coup de la billetterie, soit du coup nos autofinancements et demandes de subventions.
Et là, je me tourne vers toi, Yuna. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les invités et les artistes qui seront présents sur place?
Oui, tout à fait. Du coup, pour commencer, on a des percussions antillaises et congolaises qui viendront ouvrir la fête, comme il y a 2 ans d'ailleurs. Ensuite, on a différents spectacles, donc un spectacle de danse de la compagnie On y danse, qui s'appelle Raga. On a également un spectacle pour enfants avec Aimé Kifoula, qui s'appelle Zeba. Et on a Florian Filloux, qui est aussi un de nos bénévoles, qui va nous faire un petit voyage sonore pour le retour au calme vers 16h30. On a des contes pour enfants, ensuite on a Initiation à la danse. Et cette année, on a une petite nouveauté, donc c'est un défilé de mode de Kate Pagis, qui est une artiste, et du coup qui se mettra en place tout sur le lieu. Donc on a un gros saut au milieu et un petit chemin qui fait tout le tour. On pourra assister à un défilé de mode avec des tissus, du wax, etc. Et en fin de soirée, donc on a un spectacle musical de la compagnie Yedele qui s'appelle Colina. Et pour finir la soirée, donc un concert électro-oriental, All Right Mela. Et puis à la fin, soirée DJ pour fêter un peu tous ensemble et se réunir avec les artistes et tout le monde. Et du coup, comme disait Jules, le dimanche, donc là, nous, on a des 3 auteurs qui viennent. Donc c'est Doris Kelanou, Falmarès et Victor Catemo qui viennent. Donc ça va être des échanges, des lectures de textes, des dédicaces. On pourra les rencontrer, peut-être une table ronde pour échanger aussi. Donc voilà, retour au calme le dimanche.
Ok, pas mal d'activités bien diversifiées en plus, sympa.
Attends, c'est quoi le wax juste, Yuna? T'as parlé du wax?
Oui, c'est les tissus qui viennent d'Afrique, donc très colorés avec plein de motifs. Je sais pas si vous connaissez.
C'est ce que j'imaginais, mais
oui,
je savais pas que c'était le terme.
Oui, exactement.
D'accord, donc ce sera dans le défilé de mode, ça.
C'est ça.
Le défilé.
Tout à fait, ouais.
Et on en parlait un petit peu là pendant la pause musicale. C'est donc tes parents qui ont créé l'association Zenga Zenga, Yuna.
Alors du coup, c'est les parents de Léna qui est la présidente.
De Léna, oui, pardon, oui, c'est vrai.
Qui a pas pu venir aujourd'hui. Donc c'est Georges Mboussi, le papa de Léna, du coup qui est d'origine congolaise et ils sont arrivés à la Daguenière dans les années 2000 et en s'installant, ils ont créé du coup l'association Zenga Zenga et donc le festival. Donc au début, c'était le festival Bibliopirogue et ensuite c'est devenu la fête africaine au fur et à mesure. Voilà. Donc ça fait déjà 11 éditions.
Zenga Zenga, ça peut-être dire quelque chose. C'est ce que tu voulais demander.
Ce que
vas-y, vas-y.
Est-ce qu'on peut avoir la signification?
Ouais. Alors, du coup, en fait, Zenga Zenga, c'est au Congo, c'est le passage en fait entre l'enfance et l'adulte. En fait, c'est un rite ce qui se fait, et en fait bah du coup l'association elle s'appelle Zenga Zenga parce que c'est aussi cette montée d'intergénérationnel où en fait bah nos parents en fait, ils ont transmis à leur à leurs enfants quoi, à la fois bah pour la famille de Mboussi, la culture africaine, mais aussi bah en fait tout simplement ce festival. Et aujourd'hui en fait c'est nous les jeunes qui organisons le festival que nos parents ont organisé il y a des années.
Ouais, on a grandi avec à la Dagonière et c'était il y a une grosse coupure de 5 ans. Et nous, on en a reparlé entre nous, entre jeunes, et on a voulu reprendre le festival, donc avec les parents aussi à côté. Mais du coup, ça a redonné un petit coup de peps, voilà.
Un nouvel élan.
Quand vous dites jeune, vous avez quel âge ? Je sais pas si on...
Non, mais jeune, moi j'ai 25.
Et moi j'ai 21.
D'accord.
Ouais, ouais.
Oui, ça reste.
C'est qu'on a une grosse équipe de bénévoles de tous nos parents qui étaient dans l'asso, on a tous repris ensemble, quoi.
Qui sont moins jeunes, du coup.
Ouais, mais ils sont toujours là, ils nous aident toujours.
Est-ce qu'on peut avoir un petit peu les idées que vous avez apportées, parce que du coup c'est la 11e édition et même vous avez un petit peu baigné dedans, comme tu viens de nous le dire, Yuna. Et qu'est-ce que justement les jeunes ont apporté de nouveau dans cette fête ?
Moi je dirais peut-être un peu plus de nouveautés et je dirais plus de questionnements. Sur comment on fait la fête. Je pense notamment au débat qu'on avait eu sur déjà le nom de la fête africaine. Voilà, en fait, c'est toutes ces structures-là, parce que nous, on s'interrogeait sur que la fête africaine, c'était en même temps un peu réducteur. En même temps, du coup, comme Yuna a dit tout à l'heure, en fait, initialement, c'était le festival Bibliopirogue. En fait, c'est les gens qui ont donné ce nom-là à la fête. Et typiquement, on a gardé ce nom, mais c'est aussi en fait voilà plein d'interrogations qu'on a pu amener, et aussi tout simplement une nouvelle dynamique. Ouais, je pense carrément. Notamment aux très belles affiches de Yuna qu'elle a fait.
Ouais, oui, c'est vrai qu'on fait un gros travail pour sur la communication, vu que on sort tous un peu d'études de com, de graphisme et tout, donc on s'amuse beaucoup là-dessus. On essaie de faire un truc très coloré qui attire l'œil. C'était un peu mis de côté ces dernières années, même sur les réseaux sociaux, on essaie d'être hyper présent. Donc c'est pour le coup ça, ouais, on essaie vraiment de changer ça.
Et ça m'amène à une autre question. Pourquoi, donc là j'aimerais avoir votre avis, vos avis à tous les deux, pourquoi c'est important selon vous de célébrer et de mettre en avant cette culture africaine, principalement à Angers ?
Parce que déjà il y a plein de choses qui se font vis-à-vis de la culture africaine à Angers. Je pense notamment au cinéma d'Afrique. En fait, c'est juste un moyen de favoriser le lien social, en fait, de comprendre l'autre, de comprendre sa culture, en fait, tout simplement pour juste vivre déjà plus en harmonie, le comprendre, mais aussi tout simplement s'émanciper des cultures que on peut apprendre. Et enfin, c'est à chaque fois hyper intéressant de voir en fait le rapport au monde qu'a l'autre, toutes les histoires, tous les mythes que d'autres peuvent avoir, et pas avoir une vision occidentale ou centrée.
Et j'ai une petite dernière question. Il y aura bien sûr un espace restauration. Est-ce que la nourriture, elle aussi, est dans le thème de l'Afrique ? Et surtout, si oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir goûter comme spécialité ?
On a déjà faim, avant même la réponse.
Oui. Ouais, du coup, nous, on fait du bissap, comme ce qu'on faisait pour les autofinancements. On vend du bissap, qui est une boisson à base de fleurs d'hibiscus. Je sais pas si vous connaissez. On fait aussi des bananes plantains, donc des alocos, qui sont frits dans l'huile. Et puis, du coup, on va faire pour la restauration rapide, donc ce sera plus simple pour nous, ce sera des sandwichs, mais à base de sauce africaine. Donc là, on va faire un poulet arachide. Il y aura aussi une version végé. Voilà. Donc, on est encore en train d'affiner ça. Mais voilà. On faisait des fouilles d'habitude pour vraiment mettre en lien avec le côté français aussi. Mais cette année, ce sera sandwich. Voilà, ce sera plus simple pour nous.
Et ben voilà, on a faim.
Ah oui.
Merci beaucoup, Julie et Yuna, d'être passés dans Topette ce soir. Vous restez avec nous. On rappellera également les informations pratiques en fin d'émission. Et avant de retrouver Anaïs puis Mathéo, on fait une petite deuxième pause musicale.
J'ai les armes que j'ai. J'ai les armes que j'ai. J'ai les armes que j'ai, des couleurs qui prennent l'eau, la faute à mon prénom. Et depuis le berceau, à défaut de savoir m'adapter au contexte, ouais, le savoir rimer en retournant ma veste. J'ai les armes que j'ai, des routes à sens unique qu'il me faut labourer, mon manque de tactique, mes lettres de refus qui les soirs d'allégresse donnent à ma dévotion ces lettres de noblesse. L'impatience furieuse de ceux qui voient devant en regardant derrière, de ceux qui pourtant ne voient plus grand chose quand le cœur monte aux yeux, pendant que les poings tremblent, que les pieds font des nœuds, quand il n'y a plus de centre, pas vraiment de milieu, quand ça fait dans le ventre comme l'eau sur le feu, comme l'eau sur le feu. J'ai les armes que j'ai, l'ivresse des souvenirs, l'ivresse des bords de mer, quand le jour se retire et que le vent me pousse à sauter dans le vide, celui d'un amour fou, d'une vie intrépide. J'ai les armes que j'ai, cette absence d'audace, mon baluchon paré pour changer de surface, parce que je suis ringard avec mon dos voûté, mon manque d'insolence et de second degré, mais que je suis peinard à me répéter qu'en dépit de l'époque, j'ai les armes que j'ai. C'est quelques fleurs qu'il me faut me lancer, et j'ai ces quelques coups que je dois me donner pour réveiller les morts qu'on stocke dans mon cœur, en privant du dehors, en privant la rumeur, d'emporter avec elle un bout de ma parole et de me prêter des ailes pour que mon chant s'envole. J'ai les armes que j'ai mes défaillances pour gérer mon parler et mes incohérences. Quand on me donne 5 minutes face à des gens bien droits pour prouver que ça vaut la peine qu'on mise sur moi, eh ben n'émisez pas, que voulez-vous que je vous dise. J'ai les armes que j'ai, ces armes qui m'aiguisent, celles-là que je brandis, mes fusils en carton, mes couteaux de brindis en basse définition, parce qu'on m'a dit non. J'ai les armes que j'ai, parce qu'on m'a dit non. Il me revient de vivre, de toujours faire front, électron libre. Parce qu'on m'a dit non, il me revient de vivre, d'aller chercher au fond et de poursuivre ce que j'ai entamé en affûtant ma voix, peut-être pour venger mes ancêtres paria. Parce qu'on m'a dit non, j'ai bonne mémoire, j'ai tellement mal partout que je dis mal nulle part. Et s'il faut qu'un jour, pour payer mon loyer, pour me payer l'hosto, pour me payer le café, aussi il faut que je troque mes bouquets d'orties, mes nuits de hard rock, mes jours de symphonie. S'il faut que je mette un masque à mes travers, s'il faut que je refasse le chemin à l'envers, par détresse, par ennui, par défaut, par défi, toucherai-je aux armes de l'ennemi.
Moi que j'ai de Noé Préchaud sur le 101.5 FM. Et je passe maintenant la parole à Anaïs pour notre troisième et dernière invitée de la soirée.
Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Oui, on va être ensemble sur cette interview, puisque avec toi, on a le plaisir d'accueillir Frédéric et Charlotte. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Et bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Vous venez toutes deux pour nous parler du festival Spectacle au Jardin, les spectacles dans un jardin, mais il y a aussi plusieurs jardins malgré tout. C'est à Bushmen, c'est déjà la 5e édition. Alors si on fait un calcul rapide, ça nous emmène en 2021, donc on se rappelle de l'époque, voilà, c'était période post encore Covid. Du coup, c'était pas forcément simple de faire cette proposition et vous avez bien fait de le faire puisque du coup ça tient le choc et ça continue d'année en année. Plus ça va, plus la brochure est grande, j'ai l'impression. Non, c'était déjà un format comme ça. En tout cas, elle est très belle, verte, bucolique, des fleurs partout, de la culture, de la musique. Et justement, avec Anaïs, on a plein de questions à vous poser.
Du coup, votre événement, il va se passer du 27 juin au 19 juillet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Peut-être Frédéric, la chef d'orchestre.
Rapidement, oui, comme tu le disais, Pierre-Benoît, Spectacle au Jardin est né après la pandémie, puisqu'on s'est dit, bah, les artistes, ils deviennent quoi? Voilà. Et on a un très beau territoire et un réseau de bénévoles aussi assez important. Donc on s'est lancé. Et là, c'est la 5e édition, effectivement. Donc on propose, notre point de départ, c'était proposer des spectacles professionnels dans le jardin de particuliers sur le territoire de Bushmen. Bushmen, le territoire, c'est la pointe, le bourg de Bushmen et Prunier. Donc aussi bien dans des beaux et grands jardins, voire des parcs, que des jardins en lotissement. On avait envie aussi de veiller à ce que ce soit éclectique, mixte, voilà. Que ce soit pas juste un festival où on va dans les belles maisons et les grands jardins.
Je le disais, la brochure, elle est très grande. Et justement, Anaïs, toi, tu te posais une question.
Oui, j'ai vu qu'il y avait du coup 13 spectacles. Est-ce qu'il y a un spectacle qui vous tient particulièrement à cœur ou pas du tout?
C'est toujours une question compliquée pour y répondre, parce que si on a choisi ces 13 spectacles, c'est parce que évidemment on a envie que ce spectacle soit vu, et c'est pour ça qu'on les a choisis. Mais avec avec Frédéric, on avait quand même réfléchi à cette question avant de venir. Donc en fait, on avait envie de mettre en avant un spectacle qui s'appelle Nuit dans les jardins d'Espagne, donc qui va avoir lieu le 5 juillet, donc sur le deuxième week-end. Et c'est un seul en scène, donc c'est du théâtre, porté par Sandrine Weiss, donc une super comédienne, peut-être que vous connaissez. Et on est sur une pièce avec un humour anglais, avec un synopsis en gros de deux amis, et une débarque chez sa voisine un jour en lui disant qu'elle a tué son mari. Voilà, ça commence comme ça. Donc autant vous dire que je pense que voilà, on va être sur une pièce entre eux, un sujet dramatique, mais comme l'auteur est anglais, et donc il y a cette pointe d'humour anglais qui va nous accompagner tout le long de la pièce, quoi.
Et ça fait un pour toi, du coup, Frédéric, t'en avais un pour toi aussi, un spectacle coup de cœur.
Moi, c'était « À travers les arbres, la lumière passe encore ». Donc là, c'est du clown. C'est une clown qui parle de guérison de l'humanité. Alors moi, je trouvais que c'était bien, en ce moment, de parler de guérison de l'humanité. Et c'est une fable écologique. Bon, avec le clown, il y a toujours des surprises. Mais elle vient vraiment nous inviter à être soigneux avec notre terre. Voilà, donc je trouvais que c'était fort à propos. Mais en plus, c'est une très belle clown avec des plumes. Elle est magnifique. Et donc, c'est un rendez-vous famille. Ça veut dire qu'on peut venir avec les enfants. Voilà, je pense que là, pour le coup, il y en aura pour tout le monde sur ce spectacle-là.
Le titre évoque déjà l'espoir, puisque les lumières continuent à passer à travers les feuilles. Donc, comprend. Déjà, le titre annonce la couleur.
Mais oui, il y a encore de la lumière.
Je pense qu'il y a un côté très déjanté avec elle. Si vous allez voir... sur le site internet du festival, il y a pas mal d'extraits vidéo. Ça nous donne aussi un petit aperçu quand on connaît pas les compagnies. On a mis en avant cette compagnie-là aussi parce que c'est la seule dans la programmation qui n'est pas une compagnie locale. Voilà, on a aussi envie que les gens viennent la voir. Et c'est des fois plus simple de venir quand on connaît, mais là on connaît pas, mais il faut venir quand même.
Voilà.
Ben merci pour ces propositions. Alors évidemment, on le précise, ça n'exclut pas le reste, mais en tout cas voilà, ça permet de donner un petit aperçu, c'est un échantillonnage des 13 spectacles. Justement, il y en a 13.
Oui. Et est-ce que ces 13 spectacles, ils sont destinés uniquement aux adultes, aux enfants ou tout public, tout âge ?
Je dirais que principalement, ils sont tout public. Si vous regardez un peu, on a précisé à chaque fois les tranches d'âge. Voilà, mais on essaye toujours quand même dans la programmation d'avoir au moins un ou deux spectacles. Donc là, cette année, il y en a deux essentiellement. Enfin, en tout cas, vraiment pour le jeune public. Et certains qui sont tout public, mais qu'on indique quand même comme des rendez-vous famille, comme celui qu'on a présenté juste avant. Parce que voilà, là, elle met tout public à partir de 8 ans, par exemple, pour « À travers les arbres ». Donc voilà, on considère que c'est un spectacle quand même familial. Donc il y a les spectacles, on va dire, théâtre, comme celui que j'ai présenté moi, qui est quand même plutôt pour les adultes. Et après, voilà, on met des petites pastilles pour le jeune public ou les rendez-vous famille pour que les personnes se retrouvent dans les différentes propositions. Donc je dirais qu'on est quand même sur un festival tout public, quoi.
En tout cas, il y a le choix, et le choix, il est un petit peu plus important que l'édition précédente, je crois, Anaïs.
Oui, parce que j'ai vu sur votre site internet, du coup, spectacleaujardin.fr, des images sur l'édition 2025, il y avait 12 spectacles l'année dernière. Est-ce que, il y a des choses en plus, contrairement à l'année précédente, ou c'est les mêmes, juste il y a un spectacle en plus?
En fait, on est passé de 12 à 13, c'est un petit peu les hasards de la programmation et de notre budget. C'est vrai qu'à un moment, on a dit, tiens, on en a 13 cette année. Bon. C'est pas vraiment une volonté, en fait. Ce qu'on veut pas, c'est en proposer de plus en plus. Voilà. On sait qu'on restera dans cette fourchette-là.
Okay.
Voilà. Parce que, bah, il faut aussi tenir sur toute la durée du festival. La particularité du festival, c'est quand même de changer de lieu tout le temps. Donc ça, c'est quand même une organisation technique qui est importante. Et, voilà. Donc, on sait qu'il faut pas, puis c'est pas notre volonté, en fait, de grossir, hein, d'être connu de plus en plus, ok, mais pas faire plus. Mais à une époque, on en avait 17. Hein.
Ah oui,
okay. Ouais, sachant que, si je peux rebondir là-dessus, c'est que Spectacle au Jardin, c'est en fait une dizaine de bénévoles,
qui organise ce festival-là. Donc, quand vous voyez les 13 spectacles, voilà, c'est un CA de 10 personnes. Moi, je me suis rajoutée il y a quelques années pour apporter des outils et un peu de coordination professionnelle. Mais en fait, voilà, c'est 10 bénévoles qui organisent ce festival. Je crois qu'on arrive à 30 ou 40 personnes qui œuvrent après, une fois qu'on est sur les dates. Mais on est quand même sur une organisation... voilà, c'est des personnes qui donnent de leur temps pour organiser ce festival-là. Donc aussi, c'est pour ça la volonté de pas non plus trop grossir, parce que voilà, faut pas épuiser les troupes non plus.
Et puis on reste dans un format plutôt intimiste, puisqu'on est à domicile, justement, dans les jardins. C'est le concept, c'est pas juste dans le nom, hein, on est vraiment chez les gens. Justement, si c'est important de le préciser quand même, hein, qu'on passe à la chronique de Mathéo, sur les contours pratiques, parce que Anaïs, oui, elle se disait, mais on fait comment pour manger? Questionner aussi sur les animations, je crois, peut-être.
Oui, est-ce que sur place, on peut retrouver de la restauration, des animations sur l'accueil ou autre chose?
Logement, on peut dormir sur place ou pas, par exemple?
Eh ben non, on peut pas. Non, c'est vrai le festival propose des spectacles et pour des raisons, effectivement, parce qu'on a une équipe qui est quand même relativement restreinte, on ne propose pas de restauration. Voilà, parce que c'est pareil, c'est tout de suite une grosse mise en œuvre et on n'a pas les moyens techniques de le faire pour le moment. On aimerait bien, mais voilà, faudrait. En fait, je profite d'être là. Je pense que nous, on serait à la recherche de personnes plus jeunes aussi qui nous rejoignent, parce qu'on est une équipe vieillissante, je vais dire. Et je trouve ça super joli, l'histoire d'avance sur le festival africain, qu'un festival puisse se transmettre et être repris. Alors, ce serait le rêve. Voilà. Ben, on fait avec les moyens qu'on a. Et il y a une buvette, en revanche.
Hein,
avec cette année, on a pris soin d'avoir une offre plus importante sur le sans-alcool, avec des kombucha, de l'hibiscus aussi.
Oui, du ginger beer.
Voilà.
On te fait un peu la carte.
On a étoffé la carte, on essaye d'améliorer le service, mais toujours dans la limite de nos moyens et des moyens humains. Et voilà.
En tout cas, c'est chaque année un vrai plaisir de pouvoir vous donner un petit espace de parole pour pouvoir promouvoir cette belle initiative qui est quand même singulière dans le paysage. Ça tranche avec d'autres propositions. Là, on est quand même dans un jardin. Le cadre est très bucolique, très à propos pour s'ouvrir à tous les sens culturels et puis même avec son esprit, pourquoi pas. Avant de se quitter pour de bon, on redonnera les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission. Le mot à retenir sur spectacle au jardin ou sur cette édition particulièrement, s'il y avait peut-être un fil rouge ou une info.
Moi, je dirais engagement.
Engagement pour toi, Frédéric, et toi, Charlotte?
Oui, j'aurais dit ça dans le sens où on a écrit il y a peu de temps le discours d'ouverture du festival et avec tristesse, ou en tout cas malheureusement, on s'est rendu compte que le monde de la culture allait quand même pas très bien, et que les subventions baissaient de plus en plus, et voilà, et que nous, on a la chance d'être soutenus quand même par le département du Maine-et-Loire, je préfère le dire aussi.
Et de nombreux mécènes.
Voilà. Donc engagement, oui, parce que c'est pas juste dire, tiens, on va mettre un spectacle dans un jardin, je pense que c'est vraiment aussi... au-delà de ça, promouvoir la culture,
la défendre.
On a envie qu'elle continue, quoi.
Et la défendre, oui.
Un acte militant. En tout cas, c'est bien ce qu'on entend au travers des différents acteurs et actrices culturelles du milieu culturel qui viennent ici au micro. Merci Anaïs, tu restes avec nous. On redemandera les infos pratiques tout à l'heure à Frédéric et Charlotte. Colin, on passe à quoi maintenant?
Et maintenant, avant la fin de l'émission, il est l'heure de retrouver Mathéo et sa chronique d'actu.
Le Festival d'Anjou a lieu en ce moment, le deuxième plus grand événement de théâtre en France après le Festival d'Avignon, a eu le plaisir d'accueillir des comédiens de renom, des pièces de qualité. Fabrice Lucchini faisait figure de porte-étendard, revenu dans le Maine-et-Loire 6 petits mois seulement après avoir ouvert la 38e édition du Festival Premier Plan, pour parler encore une fois de Victor Hugo. Au-delà des géants, l'organisation du festival permet aussi la mise en lumière de problématiques bien plus graves et plus importantes à traiter. C'est ce qu'ont fait le directeur artistique du Quai, Martial Di Fonzobo, et l'autrice Sonia Cambretto via la pièce Au bon pasteur, peine mineure, qui était déjà un des plus grands moments de la programmation 25-26 du Quai. Il s'empare d'un scandale finalement assez peu connu, mais dont le nom recommence petit à petit à revenir sur le devant de la scène, bien aidé, et c'est triste de le dire, par le retentissement national qu'a eu l'affaire l'affaire Betaram. On rappelle, hein, puisque depuis février 2024, plus de 200 plaintes ont été déposées pour des faits de violence, de viol commis par des membres du personnel scolaire de Notre-Dame de Betaram entre les années 1970 et 1990. Public Sénat parle dans ses colonnes au sein du dossier dédié à l'affaire de l'un des plus grands scandales de pédocriminalité dans l'enseignement scolaire privé. Des enfants victimes de violences dans des instituts et des écoles, cela n'a malheureusement rien de nouveau. Le scandale dans le périscolaire à Paris, les abus dans les écoles catholiques des Lassaliens révélés il y a 4 mois par France Inter, tant d'affaires récentes, mais lorsque l'on creuse, lorsque l'on fouille, lorsque l'on revient au XXe siècle, les abus, les violences, les agressions sont monnaie courante. La colonie de Maitrey, fermée en 1939, ses châtiments, ses travaux agricoles, son isolement au cachot, le silence obligatoire, un lieu que Michel Foucault désignera dans son essai « Surveiller et punir » comme là où le système carcéral moderne est né. Le scandale de Belle-Île-en-Mer, également en 1934, lorsque le passage à tabac d'un adolescent par les gardiens fait donc s'évader une cinquantaine de jeunes et voit une prime d'ailleurs être fixée sur leur tête par le chef d'établissement. Le scandale d'État aussi des enfants de la Creuse de 1963 à 1982, 19 ans durant lesquels plus de 2000 enfants réunionnais sont enlevés à leur famille, forcés et envoyés vers la métropole. Dans le même temps, à Angers, des milliers de jeunes filles des décennies durant sont victimes d'un institut, celui du Bon Pasteur, dont il est important de refaire la chronologie pour comprendre à la fois la confiance étatique et institutionnelle qui lui est accordée, mais aussi, par effet ricochet, la puissance destructrice, manipulatrice de celui-ci. Revenons donc 150 ans en arrière, en 1835, lorsque Rose Virginie Pelletier crée la congrégation à Angers, celle qui prendra plus tard le nom de Mère Marie Euphrasie a une idée en tête, réhabiliter les filles dites perdues. Alors l'antenne angevine de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur devient la maison mère de celle-ci. Il faudra attendre un demi-siècle avant de voir un quasi-monopole de la rééducation se faire dans les mains de plusieurs congrégations religieuses, dont le Bon Pasteur. Les hommes vont dans des bagnes ou des maisons de correction et les filles sont enfermées dans ces instituts religieux. Elles sont nommées les filles de justice et étaient placées par des tribunaux, soit à la demande de leur famille. La notoriété du Bon Pasteur est en grande partie due à son antenne angevine. Rose Virginie Pelletier envoie bon nombre de sœurs fonder des couvents dans toute l'Europe. Lorsqu'elle décède en 1868, on en compte déjà 110, incluant 2076 religieuses professes, 6372 jeunes filles et 8483 enfants. Au milieu du XXe siècle, la congrégation possède plus d'une quarantaine d'établissements en France. Ce sont des milliers de jeunes filles mineures qui sont concernées à la fois par des placements injustifiés, souvent via une mesure civile enclenchée par les parents, des histoires tragiques derrière lesquelles se cachent souvent aussi des affaires de viol et d'inceste. Des jeunes filles mineures qui ont subi des violences dans leur cercle proche, que l'on cache et qui sont victimes de l'établissement. Sur place, elles découvrent des travaux forcés dans des blanchisseries qui servent de financement au Bon Pasteur, travaillant de 8 à 10 heures par jour à laver et repasser le linge des hôpitaux, de l'armée et autres hôtels de luxe, sans salaire, sans cotiser pour leur retraite. C'est une expérience difficile à valoriser qui engendre une précarité extrême à la sortie de l'établissement. Pour elles, qui ont évolué, qui plus est, sans repère pendant des années, victimes d'une institution qui cherchait à briser l'esprit de rébellion via des méthodes extrêmes, allant de châtiments tels que le silence obligatoire, l'interdiction de nouer des liens simples d'amitié avec les autres filles, à de sévères punitions telles que l'humiliation publique ou l'enfermement au mitard, des filles qui avaient le crâne rasé dès lorsqu'elles essayaient de s'enfuir et dont l'identité était mise à mal avec l'interdiction d'évoquer leur passé, donc leur traumatisme, et qui changeaient parfois de prénom. Toute cette mécanique de violence a toujours accompagné les pensionnaires. Dès 1893, le premier scandale éclate avec l'affaire du Bon Pasteur de Nancy. Cette année-là, Maria Lecoanet, 18 ans, dépose plainte, jugeant le travail réalisé sur place comme de l'exploitation pure et dure. Relayée par l'évêque de Nancy, l'affaire fait le tour des journaux et force la fermeture de l'établissement le 26 mars 1903. En parallèle, c'est l'écrivain Benjamin Guinaudeau qui publie en 1899 son ouvrage « Les crimes des couvents, l'exploitation des orphelins » et l'établissement angevin, comme d'autres en France, y est épinglé par l'auteur à la fois pour les sévices et autres mauvais traitements infligés aux jeunes filles, mais aussi pour la violence affichée en faire les filles victimes de viols, notamment par leur patron dans le cadre des travaux forcés par l'établissement. Rien de quoi ébranler la confiance de l'État, alors le silence règne. Il faut attendre les années 2000 pour que de nouveaux témoignages refassent surface. Plus le temps passe, plus ils sont nombreux. Tous ont un point commun, l'horreur. Je vous laisse avec celui de Marie-Christine, relayé en mars 2025 par France 3 Pays de la Loire.
Les violences, elles étaient tous les jours. Vous êtes détraînés, vous finirez dans le caniveau. Les coups, ça, on en prenait tous les jours. Moi, on m'a forcé à manger ce que j'avais vomi dans mon assiette. Il a fallu que je mange tout. Voilà le genre de violence. J'ai vu une fille se faire taper la tête contre un lavabo, et la fille, elle peut témoigner, elle est toujours vivante. Il faut qu'on soit reconnus comme des victimes, parce que c'est ce que nous sommes finalement. C'est pas en tapant à coups de bâton sur quelqu'un qui devient meilleur, au contraire.
Depuis une vingtaine d'années, les victimes s'organisent alors pour essayer d'apprendre à vivre avec les traumatismes. Un forum de discussion est ouvert en 2009. Une association d'entraide demandant des excuses publiques et des dédommagements est créée en 2020 par Marie-Christine Vena et Evelyne Lebris. Preuve que leur travail de mise en lumière et de témoignage paye, Evelyne Lebris est auditionnée le 20 mars 2025 devant la commission d'enquête parlementaire qui devait statuer sur l'affaire Bétaram. Violée de ses 11 à ses 13 ans, envoyée au Bon Pasteur par un juge, elle restera enfermée 3 ans dans les antennes d'Angers et du Mans. Victime de la méchanceté des religieuses, des violences, des travaux forcés, elle est aujourd'hui au cœur de la libération de la parole. Je vous laisse écouter une partie de son témoignage devant la commission d'enquête.
Les filles fuguaient, mais pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir si elles n'étaient pas montées en haut d'un arbre pour se cacher. Et quelquefois, elles fuguaient, et puis elles se rataient. Elle tombait par terre, comme à Nancy, où elle a râlé toute la nuit et que les chiens l'ont mangé, en fait. Au matin, c'est pas le corbillard qui est venu, c'est un tombereau avec un cheval, et puis ils l'ont baigné dedans, et puis voilà.
En 2022, la réalisatrice Emrance Dubas sur le documentaire Mauvaise fille, récit et témoignage de quatre victimes pensionnaires du Bon Pasteur qui pousseront la congrégation à mettre en place une commission indépendante pour faire la lumière sur, selon eux, des dites défaillances. Alors pour l'heure, aucune indemnité n'a été versée, aucune excuse publique n'a été prononcée. C'est dans ce devoir de mémoire que l'art s'est emparé de leur histoire avec cette pièce, donc Au Bon Pasteur, peine mineure, dont la représentation a eu lieu avant-hier au Festival d'Anjou.
Bon Pasteur, nous redressons les fugueuses, les apaches, les crapuleuses, les prostituées, les errantes, les perverses, les voleuses, les rebelles, les insoumises, les invaincues, les hystériques, les vagabondes, les opposantes, les butées.
Pourtant, nous, les filles, nous avançons trois par trois, les yeux baissés. Nous, les filles, nous avançons trois par trois, au milieu des gens qui se moquent. Quand on croise un homme, Sœur Madeleine agite une clochette pour que nous baissions les yeux. Je cours par là-bas, le petit couloir, je cours, oh, je tombe, je me relève, mon genou, je cours le plus vite que je peux, je cours et je dis non, non, je dis non à tout.
Interprété par la talentueuse Inès Kéro, au passage, hein, Mathéo. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir cette...
Oui, j'ai vu qu'un extrait, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au Festival d'Anjou, malheureusement, j'aurais bien aimé. Du coup.
Bon, en tout cas, merci pour cette chronique d'actualité qu'on peut retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, radio-g.fr. Puis voilà, on se retrouve pas dans deux semaines, c'est la fin de saison. Donc c'était la dernière chronique d'actu de l'année,
ça.
Mais on se retrouve pour...
Mercredi, donc la chronique 2,5 sur le cinéma.
Parfait. Avec ou sans Johan, on sait pas.
On sait pas trop encore.
Ouais. Aussi Johan.
C'est le flou.
En tout cas, ça aussi, on peut découvrir sur les réseaux sociaux. Très peu de temps, mais on va le prendre quand même pour refaire venir toutes les personnes qui sont intervenues à l'antenne ce soir. Notamment, alors c'est Charlotte qui est désignée par Frédéric pour parler de spectacle au jardin. Les infos pratiques et utiles à retenir, ou même Frédéric, si t'es encore là, du 20. Alors, 20 juillet au. Non, 20 juin. Attendez, j'arrive pas. 27 juin, j'arrive pas à le lire dans le bon sens du coup, oui. sur le flyer. Frédéric.
Alors, j'ai pas entendu la question.
C'est de quand à quand le festival?
Alors, ça commence le 27 juin, le samedi 27 juin avec Fil à la patte de Georges Feydeau, la compagnie du Poulpe. Et ça s'achèvera au bout de 4 week-ends, le 19 juillet avec Bosco, musique Cajun, pour finir vraiment dans la joie et la bonne humeur. Et sinon, pour prendre ses places... spectacle au jardin, spectacle au pluriel, au jardin.fr sur le site. Et cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on peut réserver en ligne sur Eloasso.
Et ben voilà, elle a dit toutes les infos pratiques. Frédéric, du coup, merci beaucoup d'être venu dans
Topette
ce soir. Merci Charlotte,
merci
également. Beaucoup. Merde à tous les artistes qui vont se représenter dans les jardins bouchemainois. On était aussi avec Charlotte en début d'émission pour aborder la saison estivale de Loire-Authion. Quoi retenir, Charlotte, qui a un micro devant toi ?
Eh bien, les quatre dates des apéro-concerts, à tout retrouver sur loire-option.fr. C'est deux fois en juillet, deux fois en août. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à venir et vous renseigner sur loire-option.fr.
Et la Foire Saint-Gilles avec les courses de caisses à savon. Ça, on a bien retenu ici dans l'équipe. Merci beaucoup d'être venu dans Topette également ce soir. Jules, et voilà, on l'avait promis en mode Planète Rap, comme dans Skyrock, pour la fête africaine, l'association Zenga Zenga. Quoi retenir ?
Exactement. Eh ben, écoutez, rendez-vous le samedi 4 et le dimanche 5 juillet au Port Maillard à la Daguenière. L'entrée est gratuite, tout est gratuit. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Zenga Zenga ou Zenga Zenga Asso. Donc Zenga Zenga sur Facebook et Zenga Zenga Asso sur Insta.
Avec un Z, Z-E-N-G-A. Et on répète deux fois le même mot.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup, Jules, qui a été accompagné de Yuna ce soir. Nous, on se retrouve lundi à 18h10. Passez un bon